Merci beaucoup de cette longue présentation. Mais je voulais tout d'abord, je voulais remercier beaucoup l'association italique et la mairie de Paris qui m'ont permis de participer à cette rencontre, qui nous a donné la possibilité aussi de s'interroger sur les relations étroites entre Paris et Rome, et je voudrais dire aussi entre la France et l'Italie, parce que c'est vrai que Paris, c'est un peu sont deux capitales, mais Paris, plus de Rome, peut-être représente beaucoup la France. Rome, c'est très important, mais l'Italie, comme je dirai après, c'est une réalité beaucoup plus complexe, surtout au niveau de la culture. Donc, liaison entre nos deux pays et les deux capitales séculaires et liaison aussi contemporaine. Pour moi, ce colloque est aussi l'occasion de rencontrer et retrouver, évidemment, après quelques mois, des très chers amis avec qui j'avais partagé mes dernières 4 années et surtout une vision commune de la collaboration culturelle entre nos deux pays. Paris, donc moi j'ai un sujet qui m'était assigné, c'est Paris, vitrine de la créativité italienne. Donc j'essayerai de développer ces sujets en parcourant un peu mon expérience à la tête de l'Institut culturel italien et aussi peut-être avec la sensibilité qui vient de, après ces mois en Italie, de mon retour en Italie et qui m'ont donné aussi la possibilité de vérifier une réalité que peut-être déjà à Paris j'avais aperçue mais qui maintenant est encore plus forte. Hier, Paolo Carilli a nous rappelé en fait que la culture peut, dans la crise économique, sociale, anthropologique, comme il a dit, et qui nous traverse, joue un rôle très important, ou peut jouer un rôle très important. Et je suis sûre de ça. Je trouve que dans un moment comme celui-ci, vraiment, la culture, c'est la seule manière de tenir une société, de la faire identifier bien dans les valeurs, et surtout au niveau européen, de réunir les forces pour en face à ces crises qui est très important. Alors, je voulais en fait parler du thème de la créativité italienne à Paris, de la vitrine de la créativité italienne, en me posant des questions que je pose aussi à vous, parce qu'après, peut-être, les réponses seront un peu différentes. La première question que je me suis posée, c'est présenter la culture italienne à Paris et en France en général, et je trouve que c'est une tâche très compliquée. Compliquée parce que, d'un côté, les Français se sentent très proches de l'Italie, comme les Italiens aux Français, et de l'autre côté, ont une vision très classique et traditionnelle de la culture italienne. Ils l'associent presque exclusivement à son immense patrimoine historique et artistique pluriséculaire. Et c'est ça une des choses les plus, une des forces les plus difficiles à combattre. Ou encore, il l'affiche autour de quelques grands noms, par exemple, pour se limiter à la période plus contemporaine, Alberto Moravia, Primo Levi, Elsa Morante, Italo Calvino, Pierpaolo Pasolini per la letteratura, o Giorgio Bassani, ou à musique, par exemple, Pavarotti et Paolo Conte, ou encore pour le cinéma, Visconti, Antonioni, Fellini, Rossellini. Ces monstres sacrés sont eux-mêmes identifiés par les Français à des moments précis du passé récent de l'Italie. Emblématique à cet égard est l'exemple du cinéma des années 60, érigé la cosiddetta âge d'or du cinéma italien, érigé à un modèle quasi indépassable en France. Ce qui aboutit à cette éternelle, exaspérante ritournelle française, déclamé sur le ton de la lamentation consternée, il n'y a plus de cinéma italien. Ça, c'est là, Jean Gilly est là, donc peut-être il peut confirmer ça. Mais il sait très bien que le cinéma italien est beaucoup évolué, mais en fait, c'est très difficile de éviter de c'est facile de adopter un cliché très très facile. L'autre chose que je voulais, donc c'est ça la première chose, une vision un peu traditionnelle qui empêche quelquefois des jeunes talents de pénétrer dans la culture française, dans la ville de Paris. L'autre chose, c'est la différence énorme entre l'organisation de la culture italienne et l'organisation de la culture française. L'État français a beaucoup a construit un modèle très, très important sur la culture. Le financement à la culture était stable pendant des années et aussi a grandi beaucoup. Et l'Italie, par contre, a connu et connaît une période très, très difficile de faiblesse au niveau de financement. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi un modèle, quelqu'un disait ce matin, l'Italie, le journaliste de Le Monde, disait Philippe Ridé, c'est un pays complexe. Et c'est vrai, parce que je disais, Rome, ce n'est pas l'Italie. Et je m'aperçus maintenant très bien de cette affirmation, parce que je voyage beaucoup pour mon travail. Les bibliothèques en Italie sont 46, les bibliothèques de l'État, les archives sont plus de 100. Et en fait, la différence entre les régions italiennes, les villes italiennes, c'est énorme. Et la richesse aussi de la culture italienne, en fait, c'est la diversité. La diversité des cultures, la diversité des histoires. Donc, c'est ça, une des différences très importantes avec la France. Et donc, c'est encore plus compliqué de connaître la culture italienne en France, parce que ce n'est pas seulement connaître Rome qui te donne la connaissance des mouvements ou des choses qui arrivent, qui traversent l'Italie maintenant. Je disais l'état de la culture italienne, deuxième point. Comme dans le reste, évidemment, du pays, la culture italienne a souffert et souffre beaucoup dans les dernières décennies d'une crise profonde liée à la progressive et importante réduction des financements à la culture. L'année dernière, c'était le 0,8% de la production nationale brute, je pense on dit comme ça. Et maintenant, je pense que cette année, c'est beaucoup encore plus, c'est 0,6-0,5%. Et ça veut dire aussi au niveau de l'État, mais aussi au niveau des régions et des municipalités. Donc, c'est aussi ça la difficulté. Il y a aussi donc la réduction des financements, mais aussi la baisse continue du personnel consacré à la culture. Ça, c'est très important parce que l'Italie a connu vraiment l'absence d'un turnover du personnel. Ça, dans les musées, dans les universités et dans tout le monde de la culture et de l'éducation. Ça, c'est une faiblesse qui n'est pas seulement une faiblesse liée à l'occupation, mais c'est aussi une faiblesse culturelle d'un pays. Parce que si les jeunes générations, les jeunes, ne rentrent pas dans les grands musées, dans les grandes structures, c'est, si vous voulez, un grand problème démocrate aussi, de démocratie culturelle. La faiblesse, je veux dire, des politiques culturelles en Italie, tous les politiciens ont reconnu l'importance de la culture comme volant, comme instrument de la croissance économique, eh bien, les actions n'étaient pas conséquentes à cette affirmation. Donc, les financements sont toujours ont été toujours réduits. La structure des grandes institutions était un peu laissée à l'initiative des personnalités qui quelquefois ont bien travaillé, mais en fait une politique structurée au niveau culturel était très difficile à mettre en place. En plus, en Italie, on a connu une réforme de la Constitution qui a délégué, on peut dire, la valorisation du patrimoine aux régions. La sauvegarde, c'était de l'État, mais en fait, le modèle État-région, c'était quelque chose encore faible, encore difficile à mettre en place. Les coupes sombres dans les budgets donc, de la culture ont eu des effets très négatifs d'un côté, mais de l'autre côté, je peux dire, et Gilles Pécou et Marc Lazare l'ont dit dans un petit livre qu'ils ont préparé pour mon départ de Paris, en fait, comme dit Gilles Pécou, il dit « peu importe la crise, depuis qu'elle est davantage menacée, la culture italienne a cessé d'être un simple héritage pour être un recours et c'est la marque la plus éminente de sa vitalité. » Et je veux ajouter, c'était vraiment la revanche de son esprit civil. Donc, devant les difficultés, devant les coupes, devant la crise, on peut dire que l'Italie a connu, et ça c'est vrai, et je pense de l'avoir démontré ici à Paris avec la programmation, une vitalité, une force de frappe beaucoup plus importante. Ça, c'est vraiment une chose très, très italienne, je pense. C'est pas quelque chose qui des autres pays ont connu. Et je veux aussi rappeler, en fait, que l'Italie, c'est un des rares pays où la notre Constitution, à l'article 9, fait référence explicite au patrimoine. Il dit la République italienne tutela il paesaggio, il patrimonio storico-artistico della nazione. Donc, c'est très fort, c'est un engagement très très fort au niveau della Costituzione italiana, mais en fait, comme disait aussi Patrick Talbot maintenant et des autres interventions hier, c'est tellement vaste le patrimoine italien et est toujours là, devant tout le monde, à Rome aussi, que, en fait, c'est difficile d'adopter des politiques de sauvegarde très fortes. Je veux aussi rappeler que dans le 2005, l'Italie a adopté, à travers le ministre de la Culture de l'époque, que c'était Urbani, a adopté avec une loi le code pour les biens culturels, donc pour les patrimoines, un code qui a valeur de loi, donc est très fort. Et donc, c'est un pays qui a voulu se donner des instruments. Après, c'est difficile de le mettre en place. Ça, si vous voulez, sont des questions et des évaluations, des réflexions que j'ai faites à partir du thème d'aujourd'hui. Mais, en fait, une autre question que je voulais poser, c'est exactement en partant de mon expérience ici à Paris, c'est quel modèle culturel italien comment on peut pénétrer dans une ville comme Paris qui a une programmation culturelle excellente. Ce matin, Alberto Mattioli, le journaliste de la Stampa, disait justement « Moi, je suis ici à Paris pour écrire de politique, d'économique, mais c'est beaucoup plus intéressant de donner aux Italiens, à travers mon journal, les nouvelles sur la culture à Paris, donc sur la programmation culturelle qui donne beaucoup plus d'informations sur un pays, peut-être, que des articles politiques. » Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? La première chose, j'ai essayé de travailler avec les institutions culturelles présentes à Paris, de l'État et de la ville, et de présenter l'Italie contemporaine à travers aussi les témoignages, si vous voulez, des protagonistes encore vivants de la culture italienne, mais toujours avoir la possibilité de présenter des jeunes talents. Ça, c'était un peu, si vous voulez, la méthodologie que j'ai adoptée et que je trouve a marché à Paris, a marché très bien. Nous avons fait des accords et des collaborations très étroites avec dans tous les domaines de la culture. Donc ça, c'est l'autre chose importante. Donc présenter pas seulement un domaine, mais les diverses disciplines. Donc on a commencé avec l'art italien, donc à travers un accord avec l'Association des historiens de l'art italien présent à Paris. Nous avons présenté beaucoup des artistes italiens avec le Louvre, avec tous les grands musées parisiens. On a travaillé avec l'École normale supérieure, je pense à l'initiative que nous avons faite avec Gilles Pécou pendant le 150e anniversaire de l'unité d'Italie. Donc nous avons eu l'occasion de présenter un fresque, si vous voulez, de l'histoire italienne à travers le regard croisé des historiens français et italiens. Voilà, on a essayé de se rencontrer autour des thèmes, évidemment, de la culture italienne et qui concernent l'Italie comme la France. On a présenté ici, avec un accord très important avec le Théâtre de la Ville, toute une série de spectacles des auteurs de la nouvelle écriture dramaturgique italienne qui a nous donné la possibilité de faire connaître de Ascanio Celestini, qui est un auteur italien très fertile, qui n'était pas connu en France, Roberto Saviano, évidemment, et des autres dramaturges italiens qui ont pu présenter ici à Paris leur travail. La littérature avec avec les maisons d'édition françaises, je sais que normalement en Italie, en France, une centaine des auteurs italiens, des écrivains sont traduits. Donc il y a un marché important de la littérature italienne en France, da Henri De Luca ad altri importanti, come si dice, Niccolò Ammaniti, Michela Lamurgia, des autres jeunes écrivains italiens. Donc on a eu aussi la possibilité donc de mettre en lumière les nouvelles écritures. Et aussi le cinéma, évidemment, avec la Cinémathèque française, avec qui on a présenté des grands maîtres italiens, mais aussi la Cinémathèque a travaillé avec nous pour la présentation d'un festival sur les documentaires italiens, qui est un secteur qui est en grande croissance. Et on a eu la possibilité pendant 4 années de présenter plus d'une centaine metteur en scène italienne. Donc ça, le Collège de France avec qui on a travaillé beaucoup aussi, on a présenté, on a fait des conférences sur Dante avec un programme qui Carlo Ossola évidemment a conduit pendant 3 années. Et donc je pense que ça c'est un peu le but d'une institution culturelle italienne à Paris. Évidemment, la tâche est très difficile, c'est pas facile parce que les moyens sont très faibles, mais en fait la collaboration et le partenariat c'est la clé pour évidemment partager, comme je disais avant, une vision commune de la culture. Donc l'idée que les jeunes talents doivent être mis en valeur dans une programmation culturelle et surtout avoir l'occasion, comme vous disiez justement, d'avoir un temps long, avoir l'occasion de réfléchir et d'approfondir notre relation. Donc voilà. Et c'est ça, je pense, peut-être j'ai oublié quelque chose, la musique, les autres secteurs ont été présentés ici, mais je pense en conclusion que ce sera très important pour deux villes comme Rome et Paris. Évidemment, je n'ai pas cité, mais je veux le citer, le protocole entre les deux villes, Rome et Paris. Je pense que ce protocole doit être un peu renouvelé, peut-être avec des thèmes et des modalités et des instruments nouveaux. Je trouve que c'est très important. Les Français qui viennent à Rome sont beaucoup, beaucoup, et les Italiens aussi. Donc, je pense que c'est très important que chacun se trouve à l'aise à Rome comme à Paris. Et je pense que ça, c'est l'opportunité de réfléchir sur ça et de donner des pistes pour développer nos relations. Merci.